La belle Madame Levasseur, chapitre 4. Quand le prince de Chypre parut à l'extrémité du premier salon, suivi de Joviac et du capitaine Fitzroy, son officier d'ordonnance, le poète bouclé, qui lisait, enveloppa d'un regard bigle la longue traîne frétillante de Madame Hervé, de la Moselle, qui s'était levée aussitôt, et, fendant la presse des femmes assises, des hommes debout, de tout l'effort de ses petites jambes, se hâtait au-devant de l'altesse royale. Entre chaque porte, elle fit une révérence de cour, les genoux fléchis, le cou plié, et, à deux pas du prince, s'étant une dernière fois renversée dans ses jupes, elle entama le speech préparé. « Monseigneur, c'est un immense bonheur pour la revue Lorraine et pour moi. » Mais le prince l'arrêta net d'un vigoureux « shake-hand ». Puis, d'une phrase cordiale, modulée sur un ton clair avec cette petite pointe d'accent qu'il conservait par pur patriotisme et savait perdre, les soirs de vastes fêtes au Grand 16 ou ailleurs, il la mit à l'aise, l'assurant de son admiration sincère et du vif désir où il était depuis longtemps de se la faire présenter. « Vous le savez, madame, » continua-t-il d'un air de comédie souriante, « dans notre métier on ne fait pas toujours ce qui vous plaît. » Il ajouta, se tournant vers Joviac, qui ricanait. « Pas toujours, mais quelquefois. » Et lorsque ce matin le marquis s'est offert à me servir d'introducteur auprès de vous, j'ai répondu « avec plaisir » et retardé d'un jour mon départ, trop heureux de cette occasion, madame, de saluer en vous celle qu'on nomme à si bon titre la grande Française, notre plus charmante et fidèle alliée. « Monseigneur, » commença Madame Hervé, émue aux larmes. Alors Joviac se pencha à son oreille, et de sa voix canaille d'ancien lancier de l'impératrice et de soupeur, lui dit « Ben, c'est incognito. Appelez-le Popol. Déteste pas ça, conte de deal pour les autres. » Il finit plus bas. « Suis de parole, hein? Très zèbre. » Elle le remercia des paupières, et, glissant son bras ganté sous le bras que lui ouvrait l'altesse, elle fit avec lui son entrée dans les salons. Il y en avait trois d'enfilade, de cette architecture étoffée qui distingue les vieux hôtels du quai Voltaire, et que les besoins d'une civilisation rétrécie découpent aujourd'hui en tranches et demi-tranches. Les deux premiers, où l'on dansait le jeudi soir, très vastes et très froids, pas de tapis, des murs blancs à peine égayés de trumeaux en camaïeux, des bonnes grâces de soie vert d'eau, des chaises et des banquettes pareilles, sur une estrade, un piano à queue, une harpe, une contrebasse, des pupitres, un vase de Sèvres énorme, donné par souscription, faisant milieu de cheminée, et partout une floraison de lustres et de girandoles. On se tenait, le mardi, jour de réception, dans le troisième, vrai salon de dentiste, au buisson et bois doré, hurlant de japonaiserie de mauvais goût et de bronze de mauvais choix, mais si gentiment meublé de jolies femmes en toilette de ville, assises au hasard des poufs, des fauteuils, des causeuses, si habillées de robes, si fleuries de chapeaux, que tout ce clinquant, tout ce luisant, tout ce dentiste, et les japonaiseries, et les bronzes, et le bois doré, et l'aubusson, prenait une petite mine allumée et coquette sous la large tombée de soleil des fenêtres. Madame Hervé partit, il y avait eu un commencement de déroute. On s'était groupé par monde, par coterie, par quartier, art et diplomatie, lettres et finances étrangères, banques et politiques parisiennes, qui, à force de potins, de babiles, de froufrou, se rattrapait de presque une heure de drame en vers shakespearien. Des hommes s'étaient infiltrés parmi les jupes, et l'on apercevait des redingotes aimables courbées sur des guérites ligueurs ou des capotes guineway, pendant que, seul, derrière sa table et faisant quarantaine, le poète bouclé froissait son manuscrit et grinçait des yeux. Soudain, ce mot éclata. « Le prince de Chypre !» Et tout rentra dans l'ordre. Les redingotes aimables s'allèrent aplatir de nouveau aux embrasures des portes. Les guérites ligueurs, les capotes guénouées, regagnèrent leurs poufs, leurs fauteuils, leurs causeuses. L'art se panacha de politique et de diplomatie la finance. Et hors le clair petit bruit des dos qui se redressaient, avantageant les poitrines, des doigts fébriles qui renouaient un ruban, des pieds audacieux qui passaient le bout du nez, il s'établit quelque chose qui ressemblait à du silence. « Le voilà !» dit entre haut et bas à sa voisine la majestueuse comtesse d'Audibert, Madame Street, qui, demandant un rapide conseil au miroir en face d'elle, inclina sur l'oreille son Charles IX à plumes rouges et accentua sa moue de reine outragée. Le prince entrait, reconnu aussitôt, tant elle était du tout Paris. Sa belle prestance, un peu replète aujourd'hui, de horse guard, pincée dans un riding coat de poule à petits revers. Du tout Paris, sa barbe pâle, ses yeux gais et son sourire de présomptif. Autant pour le moins que la moustache rousse de son aide de camp, Fitzroy, et la figure blafarde, le monocle, l'immense corps boudiné de son compagnon de fête ordinaire, Joviac, surnommé « Gueule de velours », qui, après avoir perdu au baccarat une demi-douzaine de millions, s'était fait, à 38 ans, républicain par besoin et percepteur par nécessité. Il y eut une minute d'hésitation. Fallait-il se lever? Ne le fallait-il pas? Puis, Madame Street ayant donné l'exemple, en femme qui voulait se faire remarquer, on se mit debout dans un tumulte empressé, malgré les signaux de détresse de Madame Hervé, de la Moselle, gardienne sévère de l'incognito. Ce fut Bérose qui sauva la situation. Il avait compris, lui, les signaux de détresse, et sans avoir l'air de rien, il allait de groupe en groupe, murmurant « assis, mesdames, s'il vous plaît !» L'instant d'après, il n'y eut plus que la belle américaine qui se tint droite, les prunelles flambantes et le buste en avant d'un geste qui s'offrait. « Monsieur le comte, dit Madame Hervé très haut afin d'être entendue, il y a là-bas, au premier rang, un fauteuil. Si vous daignez... » Mais le prince s'excusa, craignant de déranger ces dames. « Non, non, je vous assure, je serai parfaitement ici, là, n'importe où. » Comme Bérose, avec un salut vieillot, lui apportait un siège, il refusa en termes exquis. Il préférait rester dans ce coin, où il était certain de ne gêner personne. « Je vous en prie, madame, ne vous inquiétez pas de moi. Vous me feriez regretter, je vous assure, je suis parfaitement, parfaitement. » Et il força Madame Hervé, de la Moselle, à s'occuper de sa lecture, qu'il était au désespoir d'avoir interrompu. Des vers, il les adorait, d'un peu loin, comme la musique. « Je vous en prie, » dit-il en insistant. « Puisque Votre Altesse nous l'ordonne, » fit-elle mezza voce. Elle le salua encore et revint au poète. « Allons, marchez, vous, maintenant. » Elle prit une chaise derrière lui, et sans répondre aux petites questions chuchotées que les femmes lui jetaient, « Je vous demande pardon, » poursuivit-elle. « Vous savez qui c'est ?» Il la regarda, ahuri. « Non, vous ne savez pas ?» Elle fut sur le point de lui nommer l'Altesse, puis, se rappelant l'incognito, elle ajouta seulement « Je vous engage à soigner votre débit. Vous avez un auditeur illustre. » Mais lui ne l'écoutait pas, tout à son affaire, et, insoucieux de l'auditeur illustre, il but un grand verre d'eau, toussa deux fois, et, la voix posée, reprit du commencement de la scène. Scène 5. Le roi Lear, le fou, Cornouaille, Regan, Gloucester, puis Goneril. Tout d'une haleine, il lut une quinzaine de vers. Puis, s'arrêtant, il faucha d'un coup d'œil de mépris le premier rang des femmes, qui s'étaient mises à babiller, à potiner, à rire, chatouillées au bon endroit par l'arrivée du prince, dont le dernier scandale était encore tout chaud. Un mari jaloux, tombant au cabaret du Bras d'Or, et la belle, une Israélite de la très haute banque, obligée de se blottir dans les doubles WC. « Chut, chut !» fit Madame Hervé. Elle donna une petite tape d'encouragement au liseur. « Allons, marchez donc ! Mais marchez donc !» Alors, foudroyant les murmures, la voix du poète bouclé repartit. Une voix de Lorraine, pesante et déchirée, qui cassait les mots comme des pierres. « Dites donc, Popole, trouvez ça zèbre, vous ?» C'était le marquis de Joviac, qui filait à la muette en menant le prince de Chypre par la pièce du fond, une salle à manger bourgeoise, avec une tenture de velours et des meubles d'acajou très sculptés de fleurs et de fruits. Devant le buffet, dressé dans la largeur pour le lunch, deux hommes causaient debout, un verre de toquet au poing. L'un, petit et léché, ayant l'air d'un nain auprès de l'autre, véritable géant crépu, barbu, lipu, dont la carrure d'Hercule farnèse et le creux de voix solennellement gascon remplissaient presque à eux seuls la solitude de la pièce. C'était, celui-ci, Mario Felizas. Le beau Mario, comme disaient encore ces demoiselles de Bullier. Le sculpteur de l'avenir, le maître à tous, comme on avait dit longtemps, à la jeune Gascogne, sa brasserie d'adoption, avant qu'il ne fût l'auteur de Doris. Une curieuse et bien parisienne histoire, celle de ce bordelais médiocre, qui, dans toute sa déjà longue carrière, n'avait eu autre chose qu'une distraction de talent et n'en était pas moins une manière de grand homme. Fils d'un vigneron du bas Médoc, la façon drôlette dont ses 12 ans d'enfant prodige charbonnait les murailles et modelait la mie de pain, lui ayant acquis la protection d'un propriétaire d'alentour, il était venu avec une bourse à Paris, n'avait que traversé l'école, et, se posant en révolutionnaire, pourfendeur de toutes les tyrannies, Dieu, l'empereur, l'institut, les calotaignes, les bourgeois, ce tas de mufles. Une certaine éloquence de café, un bagout bon garçon, trinqueur, tout ensoleillé de midi, au service d'un magistral orgueil, d'une ignorance sereine et de théories outrancières, lui avait assez vite formé sur la rive gauche une église, où, sans avoir rien créé, il était Dieu le Père. Aussi, quel tollé, on s'en souvient, parmi les ateliers des Vaux, quand son œuvre de début, cette jolie figure de femme nue, très pure et très vraie en son immodestie provocante, qui, d'abord liberté dans la pensée première de l'auteur, une pensée mûrie par 10 ans de paresse, puis Doris, mère des Néréides, suivant le conseil d'un praticien lettré, est devenue la jeune fille au coquillage, de par la renommée et la reproduction. C'était vu, pour cause d'impudeur, selon les uns, de politique, selon les autres, fermer au nez le salon de 1865. Bienheureuse mesure, cependant, qui, plus que toutes les médailles du monde, avait servi la fortune de l'artiste. C'était bien un peu à elle, en effet. La gloire n'est pas si prompte d'ordinaire. Au bruit mené par la presse opposante autour de son nom de victime et de sa statue exposée chez Goupil, que le sculpteur devait cette foudre de popularité, qui, le faisant célèbre soudain, lui avait ouvert le monde, valu des succès, des conquêtes, une entre autres dont il sut tirer mieux que de l'amour. Les affaires de cœur ayant toujours été pour lui des affaires. Celle de la Kreutzer, dont les émeraudes n'étaient pas moins fameuses alors que les toccades. Il la croyait plus riche qu'elle n'était, et lorsque, après 15 mois d'union, sur lesquels on était demeuré juste 1 et demi ensemble, non sans se tromper à qui plus, la chanteuse était morte de la scarlatine en Angleterre. Ses créanciers avaient d'un tel soin regretté l'héritage que Mario se serait trouvé gros Jean comme devant, s'il ne lui était resté 2 engins de fortune. Jeanne, d'abord, cette fille de hasard, dont la loi l'avait fait père, puis cette double palme d'artiste et de martyr, qui, soigneusement entretenue, grossie par sa méridionale faconde, allait, en intéressant à son sort tout ce que les ennemis de l'Empire comptaient d'âmes sensibles, lui permettre d'attendre, dans une oisiveté majestueuse, l'heure de l'affranchissement de l'art et de la liberté du génie. Elle était venue enfin, cette heure de délivrance, mais non les honneurs, non les commandes, que l'auteur de Doris espérait de ses amis au pouvoir. Acheter Doris? Qui ça, Doris? De l'histoire ancienne, Doris. Et le martyr et la légende, à peine s'en souvenait-on maintenant. Après avoir en vain patienté dans son coin et accusé de cette cochonnerie l'Institut, ses mufles de bourgeois, boudé cette république ingrate, qu'il n'était pas loin de croire un peu son ouvrage, car enfin, Doris, elle avait joué le tour à l'Empire, Doris, elle avait embêté l'Empire, Doris, et de là à dire qu'elle l'avait tombé. Après avoir vu honorer du ruban ou du jardin public un tas de paloignons et de réactionnaires, la folie de la croix, la folie du square, s'était emparée de lui. Et, bien renté par son gendre, ne manquant de rien que d'honneur, il la courtisait aujourd'hui, cette république ingrate. Il les caressait, ses mufles de bourgeois. Sa crinière blanchissante était maintenant de tous les bals de ministère, de tous les salons influents, sa redingote à parements de velours, ses pantalons sacs et ses bottes vernies. Et si, dans ce moment même, il développait avec tant de feu, devant le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, certaines grandes idées de Fontaine monumentales, qu'il potassait depuis 20 ans, disait-il, cette débauche de gestes, de poses, de paroles, n'avait pas d'autre but que de faire fleurir sa boutonnière et acheter sa Doris par le gouvernement. Reconnaissant l'altesse, Marcelin Panel, qui était amateur de cordons étrangers, se redressa, roula d'un tour de doigt ses moustaches mazarines et s'avança de biais afin d'aborder Joviac par le flanc. « C'est le prince de Chypre, n'est-ce pas, marquis ? » murmura-t-il à l'épaule de celui-ci, son peu de stature ne lui permettant point d'atteindre son oreille. « Voudriez-vous être assez bon pour me présenter à son Altesse ?»«
Incognito !» fit Joviac de même. « Bah, présentez-moi incognito !»
Le marquis marmotta « Quel zèbre !» et haussa les épaules. Puis, ayant sifflé « Pfft !» une manière d'avertir le prince en train de se faire servir un verre de Moselle, il lui dit à la bonne franquette « Panel, savez bien, Panel, Marcelin, sous Beaux-Arts !» Le prince s'étant retourné, il acheva la présentation par ces mots bredouillés du fond de sa gorge raboteuse. « Comte de Dill !» L'Altesse tendit la main au sous-secrétaire d'État. « Je suis ravi, monsieur. Si je pouvais être bon à votre Altesse pendant son séjour à Paris, je supplie votre Altesse, » dit Panel empressé. Tout à coup, il se sentit aller par derrière, et la voix de Félisas ronfla dans son oreille.
« Une Altesse, présentez-moi donc !»
Comme il ne répondait que par un tortillement malheureux des épaules, le sculpteur marchant, paume ouverte sur le prince et le saluant d'un coup de crinière léonin, s'annonça lui-même. « Mario Félisas, l'auteur de Doris.
Poseur, va, ajouta-t-il dans le dos de l'altesse, qui, n'ayant pas entendu ou pas voulu entendre, sortait au bras de Joviac, épanoui de gaieté.
En voilà des raseurs, s'écria le prince, s'oubliant lorsqu'il fut hors de voie dans la solitude d'une large galerie de tableaux qui menait au cabinet de la direction.
Et c'est ça que vous appelez une femme, Joviac. Vous m'aviez promis une femme. Je ne la vois pas, moi, votre femme. Si j'avais su, the devil.
Un peu de patience, n'est que 3 heures. Va arriver, la femme zèbre, et puis s'il n'arrive pas, aurait toujours vu le papa. Comme ça, perdez pas tout.
Le papa? Qui ça, le papa?
Mais le zèbre, là, l'artiste, l'auteur de Machine.
Vous blaguez, Joviac.
Blague jamais.
Allons, ce grand barbu serait le papa de la belle madame Levasseur?
Son papa légal,
oui, le zèbre, puisque l'a reconnu en épousant la Kreutzer. Rappelez Rosina, Rosina Kreutzer. Une zèbre? Rappelez pas, mais non d'une bûche, avait couché avec.
Je ne me souviens pas, dit le prince très digne, après avoir cherché une minute.
« Si, si, avait couché, rappelle très bien. Tiens, mais alors le père nature... »
Le marquis partit d'un éclat de rire, puis, reprenant son sérieux, il ajouta.
« Seulement auriez guéri que 9 ans. Rare, très rare, mais très zèbre. »«
Joviac, fit l'altesse d'un air de reproche, vous êtes d'une indécence. »
« Privilège de mes cheveux blancs, monseigneur. Venez là, continua-t-il, seront mieux pour guetter la femme zèbre. »
Et il fit entrer le prince dans le cabinet directorial. C'était une très grande pièce, sévèrement meublée de vieux chêne. Au milieu, une table bureau de carrure ministérielle, surchargée de journaux, d'épreuves et de brochures, que des débris de pierre, des éclats d'obus étiquetés pressaient. Sur un, on lisait « Mars Latour, 16 août 1870 ». Sur un autre, « Sedan, 3 septembre 1870 ». Ici, « Siège de Beach ». Là, « Siège de Paris ». Plus loin, « Bazeille, Strasbourg, Châteaudun ». Et c'était comme une saignante chronique de la défaite, écrite avec des pleurs de fer et des larmes de muraille. Une moitié de bombe servait d'encrier. La plume d'or massif, dernier présent de la rédaction, figurait un chasse-pot garni de sa baïonnette. Pas un objet qui ne fût un souvenir ou bien une espérance. Et le buste de marbre qui occupait la cheminée, celui du député Hervé, de la Moselle, mort l'année de la guerre après qu'il venait de fonder la revue. Et « La Lorraine en deuil » de Heiner, pendu en face. Et les aquarelles de Neuville et de Detaille. Et les panoplies des murs, jusqu'à ces cartes pavoisées de petits drapeaux vainqueurs, jusqu'à ce sapin d'un vert noir rapporté dans de la terre de là-bas, comme un symbole vivant. Des vitrines plates contenaient les cadeaux, les envois, hommages de compatriotes rapprochés ou lointains, de ceux qui étaient restés, de ceux qui étaient partis. Il y en avait d'Amérique, d'Asie, de partout. Ceux-ci, curieux et riches, des pépites d'or, une urne d'argent. Ceux-là, comiques, une noix de coco sculptée, une peau de bison. Et des médailles, et des diplômes, et des couronnes, avec la croix brisée de Lorraine. Et dessus, en exergue, le vieux cri de province, Knam Po Tocho. Les uns portant cette dédicace, à la grande française, les Lorrains, de reconnaissant. Les autres, à l'ange de la revanche. Soit encore un seul mot, délivrance. Ou j'attends. On respirait là une odeur de poudre, un parfum de bataille. Et c'était bien en effet une revue guerrière que cette revue Lila, cette revue Lorraine, dont les 10 années déjà s'alignaient par fils pâles sur les tablettes des étagères, au-dessous du portrait de sa directrice, ce bon gros garçon réjoui qu'on eût bien étonné à coup sûr si, quelque 35 ans auparavant, lorsqu'il sortait du couvent de Sainte-Chrétienne de Metz, on lui avait prédit que la fille de son père, petit notaire campagnard, craignant Dieu et le roi, épouserait un jour Hervé, de la Moselle. Son républicanisme ardent et sa libre pensée fonderait avec lui un salon d'abord, un périodique ensuite, puis, veuve, veuve deux fois, comme femme et comme Lorraine, prendrait sa place à la tête du jeune recueil patriote, et, en se pari de peu de mémoire, porterait, crâne et seul, le drapeau de la revanche. « Dites donc, Joviac, remarqua le prince après une tournée d'inspection dans la pièce, ce n'est pas un bureau, cela, c'est un arsenal. » Et, sans respect de ces choses grandes et saintes, il continua à haute voix, promenant son rire saxon et ses pointes parisiennes d'étoiles militaires aux souvenirs belliqueux. « Oh, le sapin de la revanche, Joviac, est-ce que c'est une allusion ?»«
Oui, »
répondit le marquis étendu sur un canapé. Et, bâillant, il ajouta, « Voudriez-vous pas tailler un petit bac en attendant ?»«
La revanche ?»«
Popole ferait expulser du territoire si continuait. Non, la zèbre, le vassard, arrive pas à cette rosse-là. »
Le prince ne répondit point. Il venait de tomber en arrêt devant une aquarelle de Neuville, une demi-douzaine de hulans qu'un peloton de mobiles ramenait prisonniers. Alors, se retournant vers le marquis, du ton d'un gamin qui fait l'école buissonnière, il dit en anglais « Si jamais le premier apprend que vous m'avez mené ici, Joviac, savez-vous que je recevrai un joli poil, moi ? On n'a pas l'air d'y adorer mon cousin d'Allemagne. Est-ce qu'on ne pourrait pas empêcher les journaux ? Soyez donc assez aimable, Joviac, pour dire à Fitzroy que dans le cas où il verrait M. Colliche, du Times, il le prévienne.
« Me déguise en cerf ? » fit Joviac. « Doit être là, Colliche, un habitué. Mais après, tailleront un petit bac, hein ?»«
Et des cartes ?»«
Toujours sur moi, » dit Joviac, qui se levait. Il marcha quelques pas dans la galerie et rencontra Bérose, que Madame Hervé, inquiète de l'absence du prince, avait envoyé à sa recherche. Mis au courant, le journaliste promit le silence pour son compte.
Dès l'instant que c'est le désir de monsieur le comte de Dill,
prononça-t-il de son air le plus gourmé. Quant aux autres, je ferai mon possible. Si vous voulez que je parle à Colliche,
oui, eh bien, c'est entendu.
Et après un salut d'académicien, il repartit de son pas volontairement traîné.
« Ben, ce bac !» réclama le marquis, sitôt revenu, et qui déjà mêlait les cartes.
Mais le prince le rembarra. Il était debout à la porte de la galerie, qu'une baie en face ouvrait sur les salons de danse, et lorgnait les femmes d'un joli regard connaisseur.
« Vous n'êtes donc pas capable de vous passer de jouer 5 minutes ?»«
5 minutes ? Vous trouvez zèbre ? 5 minutes ? Mais jamais ! Entendez bien, jamais ! Jouerai plutôt tout seul. »«
Eh bien, jouez !»«
Non, me connais, me flanquerai une culotte. Quand je joue seul, et une de ces veines ! Tant pris, monseigneur, rien qu'une petite banque des familles. Tenez, 5 louis, banco ? Non, voulez pas ? Alors, un lansque ? Non ? Père ou impair ? Rouge ou noir ? Ah, rouge ou noir, zèbre, ça, rouge ou noir ? Aimez trop les femmes, Popole, périrez par les femmes. Là, voyons, rouge ou noir ? Blonde ou brune, alors ? Femme qui entre, comprenez ? Zèbre, ça, femme qui entre. 5 louis à la noire. Et, rajustant son monocle, Joviac vint se planter dans la porte, un crayon au doigt, prêt à marquer les coups. Du monde entrait ou ressortait, et c'était sur les parquets, mosaïqués d'étoiles claires à l'ancienne mode, un incessant va-et-vient de traînes éployées, des piétinements de petites bottes, talonnées haut, qui sabotaient en mesure, des bruits de pendeloques, des caquets, des rires, sortes de farandoles lentes, qui, à la lueur rallumée du jour à son déclin, se déroulaient, suivies d'ombres géantes, d'un pas rythmé de polonaise ou de pavane. Des hommes passaient plus vite, sautillant de ci, de là, parmi les jupes longues, se hâtant d'arriver ou de sortir, et chaque fois qu'un silence se faisait, une accalmie après une poussée de foule, des bonjours ou des adieux échangés, la voix du poète bouclé résonnait, avec des accents rompus de trombone catareux. « Perdu !» dit Joviac. « Perds toujours, moi, quand je joue pas seul. Saint-Louis à la rouge. Reperdu. Encore Saint-Louis à la rouge. Joue la série à présent. » Soudain, le prince, qui se contentait de répondre et ne quittait pas des yeux les salons, s'écria « Oh, splendide !» Joviac, qui écrivait son passif au dos d'une carte de visite, ayant d'un coup de doigt distingué fait tomber son monocle, demanda sans lever la tête « Qui ça, splendide ?»« Cette blonde qui passe là, en vert florentin, vous ne trouvez pas ?»« Oh, savez, moi, les femmes, quand ont plus de 10 ans, maximum. » Le prince lui jeta une injure drôle en anglais et, le forçant à regarder, « Qui est-ce » interrogea-t-il d'une voix qui tremblait de désir. Le marquis braqua son rond de verre. « Chapeau à plumes flamant rose ? » dit-il. « Mais, Popol, et justement... »« La belle madame Levasseur !» acheva le baron joli derrière eux. Et comme le prince se retournait, la main ouverte, ayant reconnu le nasillement du célèbre banquier protestant qu'il rencontrait parfois, « Monseigneur, continua celui-ci, cassant jusqu'à terre sa haute taille. » Le prince le releva sans façon. Et après les premières paroles de « Welcome »,« Vous connaissez donc cette belle dame, mon cher baron ?» lui demanda-t-il. « Baron les connaît toutes, toutes !» intervint Joviac goguenard. « Oui, Altesse, je la connais. Elle est de vos... amis. » « Baron, jamais que des amis !» fit Joviac du même ton. « Et à la disposition de votre Altesse, » reprit le banquier. « En vérité ? Est-ce que votre Altesse ne la connaissait pas ?»« De non, pas davantage. C'est vous, Joviac, qui m'avez dit qu'elle était avec le comte Aragny. »« Le beau des beaux, elle n'y est plus !» déclara le baron. « Ils ont rompu !» « Depuis quand ?»« Depuis la semaine dernière. Aragny est parti brusquement pour Pest. Je sais bien qu'il avait un oncle à l'agonie. Mais lorsqu'on est très amoureux, on a... »« Pas d'oncle !» finit Joviac. « Rien que des... » Il dit le mot crûment, ce qui déchaîna le rire de l'altesse, sans que la figure du banquier frissonnât d'un seul pli, ni que ses favoris roux perdissent leur bel ordre. Puis, bas à l'oreille du prince, le marquis ajouta « Et savez, pour celle-là, inutile expédier Fitzroy en éclaireur. Pas le moindre danger. Pouvez y aller à fond. Connais Aragny. » « Dans le cas où votre Altesse se déciderait, » dit le baron qui tenait à son idée, « la présentation pourrait avoir lieu chez moi, par exemple, à beau plaisir. » Un de ces jours, si votre Altesse daignait... Oh, impossible, je pars demain. Mais le banquier s'offrit à arranger cela le soir même. C'était la chose la plus simple du monde. Il y avait une première au gymnase, et il se chargeait d'y amener la belle madame Levasseur, avec ou sans son mari. Oh, celui-ci n'était pas gênant.
et le prince n'aurait qu'à s'y trouver par hasard. Avant qu'il n'y eût rien d'arrêté, il fut interrompu par Madame Hervé, de la Moselle, qui s'approchait du prince dans un extrême déploiement de grâces et de courbettes. « Oserais-je supplier votre Altesse ?» lui dit-elle, pendant que Joviac et le baron s'éloignaient discrètement. « De m'accorder la faveur d'un court entretien politique ?»«
Comme il vous plaira !»
soupira le prince résigné. Madame Hervé inspecta d'un coup d'œil la solitude de la pièce, ferma la porte au verrou, s'assit en face du prince, après une révérence, et, les sourcils buissonneux, le front chargé d'orage, s'efforçant de rendre colère le sourire de ses joues flottantes, terrible le retroussi de son petit nez à l'évent, elle commença d'une voix sibylline. « Ce serait bien mal reconnaître l'honneur que votre Altesse a fait à la revue Lorraine et à moi que de ne pas mettre cet honneur à profit pour... » S'animant alors, soit le contact de cet éclat d'obus que ses gros doigts pelotaient en parlant, soit les chauds regards de la Lorraine qui la fixait du haut de sa toile, peut-être aussi les murmures guerriers des trophées, des envois, des diplômes, elle finit sur une phrase ronflante, pendant que, dehors dans la galerie, on entendait le pas cadencé de Bérose, qui, gardien des secrets d'État et de la politique de la revanche, comme il était déjà courrier de cabinet, factotum, aide de camp et secrétaire, se promenait en sentinelle. « On n'entre pas !» cria-t-il soudain à quelqu'un qui s'avançait et dont la pénombre du corridor ne lui permettait point de distinguer le visage. Voyant qu'on ne s'était pas arrêté, il répéta « On ne passe pas, je vous dis !»«
La raison ?»
fit une voix qu'il reconnut être celle de Daniel.
« Tiens, c'est toi. Il y a longtemps que tu es ici ?»«
Non, j'arrive, et je te cherchais. » Depuis le retour de Daniel, une amitié forte était née entre deux, celui-ci étant trop loyal pour en vouloir à celui-là de ce qui était à peine un lapsus de langue, celui-là trop carré et droit au fond, sous les dehors fous parfois, dont il se revanchait de ses obligations d'âge et de sagesse, pour tenir rigueur à celui-ci de sa propre sottise. Au contraire, cette fâcheuse présentation du Hongrois, encore qu'elle eût abrégé leur rencontre le soir du bal de l'Élysée, avait scellé leur liaison d'une sorte de mystérieux ciment. Ils ne s'en étaient jamais éclaircis, et ce silence même les rapprochait, comme rapproche un secret qu'on n'est que deux à connaître.
« Qu'est-ce que tu fais là ? »
dit Daniel.
« Tu vois, je monte la garde. »«
Pourquoi la garde ? C'est la caisse de la revue qui est enfermée là ?»
« Non, c'est le prince de Chypre, avec la patronne. »«
Est-ce que il conjugue le verbe aimer ?»«
Oh, fichtre, non, elle n'est pas pour les conjugaux, la patronne. Pas de sens, la patronne, que le sens politique. Celui-là, par exemple. Non, il ne conjugue pas, il conspire, » ajouta tout bas le journaliste.
« Nous sommes... »
« Mais chut, c'est un secret d'État. Ne va pas le vendre, hein ? Jure-moi que tu n'iras pas le vendre à Bismarck. Allons, jure !»«
Je jure !» dit Daniel en riant.
« Eh bien, mon petit, nous sommes en train de chauffer l'alliance anglaise, persuadés que seule l'Angleterre est en posture aujourd'hui de nous faire rendre la Lorraine. Sancta simplicitas ! Nous avons déjà été persuadés de cela pour l'alliance russe, tu sais, l'autre printemps. Une alliance roublarde, l'alliance russe. Mais comme elle nous a claqué dans la main, alors nous allons tâter des Anglais, d'après le proverbe qui dit que, faute de grive, on mange du plum pudding. Tu l'as vu, le prince de Chypre ?
Non, puisque j'arrive, je n'ai vu que son officier d'ordonnance.
« Capitaine Fitzroy, ce n'est pas un officier d'ordonnance, c'est un échanson. »«
Ah ! Comment ? Tu ne sais donc pas que c'est lui qui est chargé de... »« C'est assez difficile à dire proprement de faire l'épreuve des amours de sa Highness, celles qui sont sujettes à potion. Oh, c'est un garçon sûr. Si bien que l'année dernière, il s'est adressé, par ordre, à une coupe empoisonnée. Une coupe qui appartenait au théâtre du... Mais non, il ne faut décourager personne. Et la chronique raconte que l'éprouvette a été très éprouvée. Ça sert à quelque chose, tu vois, les officiers d'ordonnance. Quand ce ne serait qu'à éviter celle de la faculté. Et ton opéra comique, où en es-tu ? Roumiguer est introuvable, mais il a un secrétaire charmant qui, tous les 8 jours, me dit de revenir la semaine prochaine. Parbleu, mais ne reste pas ici, on dirait que tu mouchardes l'Alliance anglaise. Je te reverrai. Certainement. Daniel rentra dans le salon, qu'un flot de nouvelles figures emplissait, crevant jusqu'aux embrasures des portes barricadées de chaises comme des couloirs de théâtre. Lorsqu'il parut, le poète bouclé se levait, furieusement applaudi de bravos soulagés, et s'en allait à côté se rafraîchir, suivi de quelques hommes dévoués et de quelques femmes amies qui l'épongeaient et le congratulaient. Celui-ci, en chemin, fut arrêté par Madame Street, qui revenait bredouille du buffet, interrogeant chacun sur la fugue inexpliquée de son Altesse. « Vous ne savez pas, monsieur ?» lui dit-elle d'une voix pincée d'un peu d'accent. Il n'eut pas l'air de comprendre et passa sans répondre autrement que par un froncement de sourcils. « Et vous, monsieur, est-ce que vous savez ?» demanda-t-elle alors au sous-secrétaire d'État, qui s'était enfin débarrassé de Félisas au profit du chauve monsieur d'Audibert, et accourait se remettre de cette grande idée de fontaine monumentale par quelques petits essais de flirtation étrangère. « Madame, son Altesse est en main, » répondit Panel, cloué sur place par un sourire qui ne semblait rien moins qu'intraitable. « Oh, pure affaire politique, n'est-ce pas ? Cette bonne Madame Hervé, toujours Lorraine avant d'être femme. Et vous, madame, toujours femme avant d'être la reine, » finit galamment le sous-secrétaire. « Oh, charmant !» minauda l'Américaine, très flattée. « Si encore on vous avait eu tout à l'heure, cher monsieur, mais non, rien que ce poète. Moi, voyez-vous, les vers, ça me crispe, sans compter qu'ils sont affreusement cagneux. Qui ? Ces vers ? Non, ces genoux, vous n'avez pas remarqué ? C'est si rare aujourd'hui, un homme bien fait. » « Mais, sans doute, » appuya Panel, qui regardait ses jambes. « Vous avez vu le chapeau de la belle Madame Levasseur ? » continua l'Américaine, accentuant le mot « belle » d'une façon d'ironie, où se devinaient des rancunes de beauté en graines pour la beauté en fleurs qu'il avait rangée à la seconde place et lui avait pris son amant. « Est-ce assez laid, ce machin rien qu'en plume ? Elle a l'air d'une noix là-dessous, vous ne trouvez pas ? C'est si rare aujourd'hui, un chapeau bien fait. Mais sans doute. » Et ayant pris le bras du sous-secrétaire, après une langoureuse œillade à la glace, elle s'en fut avec lui coquetée dans un coin. « Monsieur Joigny ! Monsieur Joigny ! Il y a une chaise là, venez donc ! Monsieur Joigny ! Joigny ! » C'était un jeune premier du gymnase, un brun, délicieusement pommadé, qui entrait, ailé de 20 endroits, provoquant une manière d'émeute. Des femmes se serraient afin de lui faire place, et toutes les misses, folles de la colonie étrangère, toutes les lourdes mamans créoles ou levantines, les parisiennes de lettres, de politique ou de finances, qui peuplaient ce salon cosmopolite et chauvin, miaulaient à la fois « Monsieur Joigny, Monsieur Joigny !» À la fin, il se décida pour un clan sérieux, d'où des Israélites, surchargés de bijoux et de toilettes, lui décochaient de petits signes. Et après sa ronde de salut terminée, il vint s'asseoir au milieu d'elle,
souriant et muet comme un grand lama. Près de la cheminée, un cercle s'était formé autour de Madame Levasseur. Cercle fin, celui-là, et de causerie alerte, que la belle Jeanne conduisait du bout de la langue, toute triste et songeuse qu'elle fût, à peine remise encore du départ d'Aragné. « Comment avez-vous vu que c'était moi ? » dit-elle à un auteur dramatique en renom. « Je n'étais pas le seul domino flamme de punch ?»«
Je ne l'ai pas vu, je l'ai deviné. »«
À quoi ?»«
Ah, cela, c'est mon secret. »
« Je vais vous le dire, moi, madame, » fit un rastaquaire dont on ne voyait que la rosette épanouie en soleil.
« C'est à votre port de Rennes. »«
Qui n'est pas un port de salut ?» interrompit un jeune général très galant. Elle se retourna vers un gros homme barbu qui venait, en béquillant, lui présenter ses devoirs. « Eh bien, monsieur Roumiguière, » « C'est comme cela que vous lisez l'opéra comique de mon beau-fils ?» Le nouveau venu se récria avec un fort accent de canebière.
« Quoi, madame, monsieur Daniel Levasseur serait... »«
Ne faites donc pas l'étonner. »«
Je vous donne ma parole. »«
Vous me la donnez parce que vous êtes sûr que je ne la prendrai pas. »«
Non, non, si j'avais su,
vous ne l'auriez pas lu davantage. »
«
Il n'y a pas de haut.
Monsieur le directeur de l'opéra comique est tellement...
vaste, chuchota quelqu'un, que pour peu que le manuscrit soit dans sa poche de derrière, il lui faut plusieurs jours avant d'y arriver.
« Tiens, il y a une pièce à faire, » intervint l'auteur dramatique.
« Le tour de Roumiguière en 80... »
Il y eut un peu de bousculade à la porte du salon de danse. Le ministre de l'Instruction publique traversait en saluant la double file des hommes collés droits au chambranle. Sur le seuil, il s'arrêta, et ayant chaussé des besicles par-dessus ses fortes lunettes d'or, il fouilla de cette épaisseur de verre ce que sa myopie ne lui montrait que comme un bariolage. Puis, faisant un pas brusque, il s'inclina devant une statue de Jeanne d'Arc entendant les voix, qui occupait un des angles de la pièce, et lui dit
« Votre serviteur très humble, madame la directrice. » Quelques petits rires éclatèrent. Alors Levasseur, qui causait dans un groupe à l'entrée du buffet, s'élança, respectueux et confit, au secours du ministre, qu'il mena tout de suite à sa femme. Là, il ne le quitta pas encore, se penchant à son oreille pour lui souffler sa remarque d'habitude.
« Hein ? Cette attache de cou ! Est-ce grec, ça, mon cher ministre ?»
À l'arrivée de M. Doucerin, Jeanne avait eu un moment de gaieté. Elle le trouvait drôle, ce vieux soupirant de province, que sa femme gardait de près, le croyant irrésistible, avec ses redingotes prêtres, ses souliers à cordons et ses ongles en deuil de petit avocat de clocher, et, faute de mieux, s'amusait parfois de ses déclarations, qui sentaient un peu la paperasse. « Est-ce que nous n'aurons pas le plaisir de voir Madame Doucerin ?» demanda-t-elle d'un ton de regret.
« Non, madame, vous n'aurez pas ce plaisir. Madame Doucerin a sa sciatique. »
S'étant assis, les genoux dans les genoux de Jeanne, il parut réfléchir. Son veuvage d'un jour le troublait un peu, bien qu'il en marquât une joie grande. Ayant assemblé de tête quelques bouquets à Cloris, il n'en offrit qu'aucun. Et, timide, quoi qu'il fît, devant cette admirable femme aux manières royales et ce mari par trop complaisant, il accoucha seulement de cette question.
« Je n'ai pas rêvé, madame, que monsieur votre beau-fils avait quelque chose à l'opéra comique ?»«
Mais oui, » répliqua Jeanne, « je disais précisément à monsieur Roumiguière... »«
Est-ce qu'il est là ?»«
Oui, monsieur le ministre, j'ai cet honneur. »«
Eh bien, voyons, pourquoi ne le jouez-vous pas, ce jeune homme ? C'est un jeune... »« un prix de Rome. »«
À moins de vous les donner au biberon... » « Votre cahier des charges, que diantre, mon cher directeur, votre cahier des charges, Prenez-y garde, cette année j'ai l'intention d'être féroce.
Si vous êtes, monsieur le ministre, ricana le gros homme, avec son bel aplomb marseillais.
Entre-temps, on avait recommencé à appeler monsieur Joigny, que les cercles rivaux, qui ne le possédaient pas, s'étaient mis en tête d'enlever au clan des banques juives, où le jeune premier trônait toujours, muet comme une carpe et verni comme une botte. La même phrase voltigeait de très jolies bouches en très laides, assaisonnées de toutes sortes d'accents et de toutes sortes de rires. « Monsieur Joigny, dites-nous quelque chose. Je vous en prie, monsieur Joigny. » C'était une habitude du lieu de tirer parti des talents en visite et de ravigoter de vers et de musique les banalités chiffonnantes ou politiques des mardis de réception. À la fin, les supplications demeurant sans effet, une jolie Mexicaine d'allure décidée s'enhardit à prendre Joigny par le bras, et l'ayant conduit de force au milieu du salon, elle l'installa derrière la table, encore toute vibrante du drame shakespearien.
« C'est que vous voudrez, monsieur Joigny. »«
Mais mademoiselle, je ne veux rien. »«
C'est que vous voudrez, c'est que vous voudrez, pourvu que ce soit très amoureux. »
Et inondant l'acteur d'un torrent d'œillades sans réplique, la jeune fille regagna sa place avec un gentil coup de hanche de ménéo voluptueux qu'un grand homme glabre de tournure ecclésiastique, le plus mondain et le plus décoré des membres de l'Académie des sciences, qui faisait devant la cheminée, traduisit aussitôt en une équation de mouvement, dont la formule quelque peu gauloise, répandue à mi-voix dans le salon, sema beaucoup de rires et beaucoup de rougeurs.
« Une bonne fortune !» prononça Joigny en montrant ses dents.
À la faveur du petit remous tumultueux qui suivit, Félisas s'approcha de sa fille. Comme elle ne l'avait pas vue, occupée du ministre, qui, le vassard parti, s'échauffait jusqu'à des compliments, il lui toucha l'épaule du fond de son chapeau à grands bords. Tout ce qui restait du révolutionnaire.
« Ah, c'est vous !»
Et son front se fripa de deux ou trois rides.
« Vous allez bien ? Je ne vous avais pas aperçu en entrant. »
« Et Ninise ?»
Mais il se souciait bien de Ninise. Il avait reconnu Doucerin, et se précipitant, il lui disait d'un ton amer
« Monsieur le ministre, l'auteur de Doris vous salue. »«
Ah, mon cher maître !» s'exclama le député de Gerville.
Il serra les deux mains de l'artiste et lui débita une de ces phrases, mi-jésuite, mi-normande, dont il était coutumier, qui promettait tout sans rien compromettre. Puis, Joigny déclamant, il se tourna de son côté. Le sculpteur revint à Jeanne.
« J'ai à te parler !»
lui marmotta-t-il dans le cou.
« Tout à l'heure, au buffet, si vous voulez. »«
Je t'attends !»
répondit Félisas, qui enjamba le salon d'un grand pas d'homme célèbre dans une tempête de « chut » indignée. À la porte, il s'arrangea pour se faire présenter au prince, qui rentrait avec la directrice et qui, cette fois, l'accueillit et le félicita. Ce retour de l'altesse faillit encore occasionner une déroute. Les uns se levaient, les autres criaient « Ainsi !» Joigny, dépité, s'était tu au beau milieu d'une strophe. Enlevé de sa table par un essaim de jeune femme, il alla terminer sa pièce à demi-voix dans un coin, tandis que Madame Hervé, de la Moselle, accourait embrasser Jeanne et se confondre en repentir.
« Ah, chère belle, je vous demande un million de pardons. Je n'ai qu'une excuse, c'était pour la France. Maintenant, vous allez nous chanter quelque chose. »
« Le comte de Dille, ajouta-t-elle avec un clin d'œil éloquent, meurt d'envie de vous entendre. »
Elle finit moins haut. « Car il m'a parlé de vous. Il vous trouve splendide. »
« C'est que je ne sais vraiment rien par cœur, » fit Jeanne.
« Non, vrai, il y a des siècles que je n'ai... »«
Bah, nous avons de la musique. Je vais dire à Bérose. »
Elle courut à celui-ci, qui, sa faction terminée, avait été retrouver Daniel dans l'angle de la porte où il se tenait, et l'ayant envoyé vers une armoire connue, elle revint à Jeanne, que le ministre et tout le monde suppliaient.
« mais si, vous savez, vous ne nous ferez pas croire.
Madame, chère madame, je vous en prie, pour moi, murmura Douceron, qui devenait audacieux.
« Offrez-lui donc votre bras, mon cher ministre, » dit madame Hervé.
« Allons, qui m'aime me suive. » Et la première, elle passa dans la salle où était le piano, appelant de sa grande voix « Bérose ! Bérose !» Le journaliste arriva presque aussitôt, chargé de musique. Il alluma les bougies, puis attendit les ordres, toujours d'une raideur solennelle de vieil huissier à chaîne.
« Faut-il ouvrir ?» interrogea madame Hervé de la Moselle, quand Jeanne fut assise.
« Bérose, ouvrez donc !»«
Non, merci, merci, monsieur. »
Elle s'était dégantée, et après de petits mouvements de mains envolés, préludait sans musique.
« Vous n'avez donc pas trouvé votre vie là-dedans ? » fit encore madame Hervé, indiquant du doigt le paquet de morceaux.
« Il m'est venu quelque chose. »
« Alors je vous laisse, vous permettez, le comte est seul. »«
Mesdames, mesdames, s'il vous plaît, on chante »
continua-t-elle plus haut pour apaiser les parlottes et le brouhaha des chaises remuées de place en place dans la salle en veille. Le bruit ne cessa que lorsque Jeanne eut attaqué l'air de Simone des saisons.
« Oh mon Pierre, oh mon bien-aimé, c'en est fait, ton cœur m'est fermé. » Avec toute la fougue d'une voix d'âme, dont les profondeurs, les veloutés de passion, s'infiltraient comme de l'eau, chatouillaient comme des doigts. À un moment, elle aperçut Daniel, qui la regardait d'un angle de fenêtre, et trouva de vrais sanglots qu'on applaudit de même que des sanglots de théâtre. Puis le sourire du prince lui changea les idées. Elle l'avait deviné plutôt que reconnu au premier rang de la foule, entre madame Street et le baron qui venait de présenter la belle américaine. Et il y eut du défi dans la façon dont elle sonna, dont elle prolongea le mi dièse en point d'orgue de la fin. Les bravos partirent au signal de l'altesse, et ce furent des claquements de mains infinis, des murmures, des hoquets d'enthousiasme.
« Vous avez chanté divinement, divinement !»
« C'est divin. Vous êtes divine !» fit madame Hervé, attendrie, qui avait fondu sur l'estrade. « Son Altesse est au septième ciel. Voulez-vous que je vous présente ? Elle serait ravie de vous complimenter, chère belle. »«
Mais je serais très flattée, » dit Jeanne.
Alors elle se souvint que Félisas l'attendait, et, laissant madame Hervé chauffer l'alliance anglaise, et le ministre félicitait le tabouret de piano, elle gagna le buffet.
« Encore des affaires d'argent, n'est-ce pas ? » dit-elle bas au sculpteur. « Vous êtes insupportable. »
Il l'interrompit d'un geste à peindre et commença de se lamenter. Le vassard était un pingre. Après lui avoir promis 12 000 balles de pension, il lui en donnait 6, et bien juste. Croirait-elle qu'il venait de lui refuser 300 malheureux francs dont il avait besoin pour retenir un modèle extraordinaire ?
« Ah, ces mufles de bourgeois » finit-il.
« Va, tu as joliment raison de le... »
Il noya le reste de sa phrase dans un éclat de rire tempétueux et, devenu soudain très paternel,
« Voyons, ma petite, tu as bien quelques pépettes sur toi, dis, à bouler alors !» « Ninis et moi, nous sommes dans une de ces pannes !»
D'un mouvement habile, il escamota dans sa poche la bourse qu'elle lui tendait et poursuivit.
« Si tu voulais dire un mot au ministre pour ma statue et ma croix, il t'adore, le mini !»
Mais déjà, elle lui avait tourné le dos. Lorsqu'elle passa devant son mari, celui-ci, qui la guettait tout en causant avec Roumiguière, dont il était actionnaire et auquel il recommandait un second jeune prix du conservatoire, mademoiselle Félicie Berthoux,
Une artiste d'avenir, cré coquin. Accordez-lui seulement une audition, vous verrez ça. »
L'arrêta par un pan de son mantelet, et, se haussant, il lui souffla à l'oreille.
« Surtout, sois aimable avec Douceron. Tu sais qu'à présent, mon élection ne dépend plus que de lui. »
Elle ne répondit pas et revint dans le salon.
« Êtes-vous disposé maintenant ?»
lui demanda Madame Hervé de la Moselle, qui accourait à sa rencontre, ayant laissé le prince aux prises avec l'américaine.
« Je n'ai pas besoin de vous dire d'être gracieuse. C'est une question de patriotisme, chère belle. L'alliance anglaise est entre vos petites menottes, »
ajouta-t-elle avec de certaines malices de femme froide qui ne détestait pas les incendies chez les autres. Et prenant Jeanne par la main, elle la conduisit au prince et la présenta avec une révérence.
« Monsieur le comte, la belle Madame Levasseur. »«
Madame, commença l'altesse, je suis bien heureux de pouvoir vous dire toute mon admiration. Il est extraordinaire de voir tant de talent allié à tant de beauté. »
Il lui donna son bras pour la mener au buffet et continua de la complimenter d'un ton câlin de prince à bonne fortune. Arrivé là, il se fit servir deux verres de vin de Porto, lui offrit l'un, garda l'autre, qu'il vida plusieurs fois, en beau buveur qu'il était, comme le reste, et demeura debout près d'elle, aimable et conquérant. Cependant, la pièce s'était meublée de foule et de lumière, des valets à la livrée de la revue, lilas à galons tricolores, avaient apporté des bouts de table et des lampes. Et c'était un joli coup d'œil, autant qu'un joli bruit, que celui de ces couples d'hommes et de femmes en toilette, qui, à la clarté d'or des lampes, panachées de quelques rougeurs de couchant, cuillerotaient, grignotaient, jacassaient, dans une note douce où le respect mettait quelques sourdines. Toutes ne lunchaient pas, pourtant. Madame Street, jalouse d'être distancée après un petit début plein de promesses, se tenait droite à l'écart, sans fin et sans parole, écoutant d'une oreille lointaine les passionnées tirades du sous-secrétaire d'État. Une dame brune, fort peinte, qui signait « Pompon » dans un grand journal du matin, croquait d'un coin de porte quelques toilettes riches à 5 sous la ligne, et Daniel, accoudé au desservant, dévorait d'un regard fou sa belle-mère, qui, soit qu'elle le sût là, soit qu'elle fût de vrai séduite par ses royales avances, les rendait au prince en belle monnaie parisienne de charme, d'esprit et de sourire. Alors, comme l'entretien se prolongeait, que les distances s'effaçaient, que les voix se faisaient basses et les gestes tendres, Joviac, montrant au baron joli l'altesse qui flirtait dans le petit espace vide ménagé autour d'elle par convenance, Joviac, le marquis de Joviac, surnommé Gueule de velours, fit presque haut de sa voix déchiquetée et râpeuse « Hein ? Pincé, monseigneur ?»